de Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Cruel et Sac à dos vous propose des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien? Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets.
Bon, après moult péripéties,
eh oui.
Nous sommes donc dans l'espace de coworking où tu m'as donné rendez-vous, voilà. à Odysseo, c'est ça, sur Redon. Et donc je suis en compagnie de Jackie Mélin et je vais faire comme je fais maintenant tout le temps. Mais qui êtes-vous, Jackie Mélin?
Oh là là, quelle question difficile! Mais ça veut dire que je peux répondre ce que je veux aussi,
oui,
c'est bien.
C'est open.
Voilà.
C'est large.
Voilà. Justement, j'aime bien cette liberté. Je sens que je suis une personne assez libre, touche à tout et curieuse de tout. Et après, si je voulais développer, il faudrait plusieurs émissions.
Donc, je pense qu'on peut résumer. Faire une série, ouais, consacrée à Jackie.
Ce serait très drôle. Je ne sais pas si ce serait intéressant, mais en tout cas, ce serait très drôle.
Une sorte de psychanalyse.
Oui, voilà.
Donc, oui, alors, peux-tu nous raconter un peu déjà ton parcours?
Oui, parcours classique au départ, avec une formation à l'université de Rennes 2 en histoire de l'art et accessoirement un peu d'archéologie.
Accessoirement.
Ouais, j'étais un petit peu frustré de cette part qui était donnée à l'archéologie, donc j'ai beaucoup passé de temps sur les chantiers de fouilles plus que dans les cours. Et ce qui m'a amené à, pour pouvoir quand même être diplômé en archéologie, à suivre une formation par correspondance avec le CNED et l'Université d'Artois à Arras. Et donc j'ai pu avoir mon DEUG, ma licence, donc en technique de l'archéologie et en valorisation du patrimoine archéologique et naturel en Europe.
Suite à tes études, tu as trouvé directement, est-ce que tu fais partie de ceux qui sont rentrés dans la vie professionnelle grâce à leur diplôme justement Donc toi, est-ce que c'est cette filière-là, ça t'a amené à travailler dans ce domaine-là spécifique ou t'es passé par d'autres voies?
Alors l'archéologie, pas du tout, malgré plus d'une année d'expérience dans mes trois premières années d'études. Pareil, j'ai trouvé de contrat. C'était un moment assez délicat pour l'archéologie. On était autour des années 2000. On avait la réforme qui arrivait avec la privatisation.
À fond INRAP.
Et donc il y avait quelques pistes, mais c'était au niveau de la Suisse, c'était voilà, au niveau de certaines missions, mais rien ne s'est concrétisé. Et donc c'est plutôt dans le cadre de la médiation que j'ai trouvé du travail, mais quasiment dès mes 18 ans, puisque j'étais dans les mouvements d'éducation populaire, donc j'étais animateur. L'été, il fallait produire un programme d'activité, donc il était forcément autour de l'archéologie, de la nature.
Oui, en lien avec tes affinités,
voilà,
aussi, quoi, ce que tu avais envie de transmettre, quoi.
C'est ça, ouais. Et puis bon, on déclinait ça sous toutes les formes, donc on trouvait des recettes de gâteaux au chocolat pour des formes de dinosaures, voilà, ça c'est les premières choses que j'avais fait à 18 ans, mais en même temps on faisait des grands jeux de pistes dans l'oppidum de la forêt de Fougères, et d'année en année, d'été en été, j'ai pu rejoindre un projet qui avait été créé par Ivan Payet avec l'Éducation nationale sur une colonie sur le thème de l'archéologie et de la pleine nature. Et pendant 15 jours, tous les étés, ça durait 5 saisons, on accueillait 30 enfants de 9 à 12 ans. Et on leur faisait découvrir la nature, les techniques de l'archéologie et on reconstituait un village d'inspiration préhistorique essentiellement. Une super expérience que l'on a pu conduire, donc, qui était dans le Finistère au départ et puis dont j'ai pris la direction et que j'ai amené moi dans l'endroit où je suis né, dans la forêt de Fougères.
J'étais curieuse, c'est ça, t'es originaire quand même.
Je suis né tout à côté de la forêt, j'ai grandi dans cette forêt. Et puis, ça a été aussi l'objet de mon master. J'ai commencé un master que j'ai pas soutenu. Le travail a été réalisé, mais j'ai pas fait la soutenance sur l'arrondissement de Fougères et la forêt de Fougères était au cœur de cette maîtrise puisque tous les monuments archéologiques sont fossilisés par cette forêt qui s'est installée au Moyen-Âge. Donc on avait mégalithes, oppidums, villages du haut Moyen-Âge, enfin des choses voies romaines.
Toute période confondue, c'est ça, voilà. Au milieu de la forêt.
C'est ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu développer, c'est un peu ma spécialité, c'est la polyvalence. Et donc, je me suis plutôt spécialisé dans l'archéologie des territoires, l'archéologie du paysage, et dans lequel je peux voir un peu les différentes évolutions d'époque en époque.
Oui.
Et de voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui change, et de voir comment les choses peuvent être construites de manière fantastique et puis complètement s'écrouler patatras,
redémarrer, voilà. Et on en perd la trace même dans les documents, et voilà. Il faut retourner sur le terrain pour le redécouvrir.
Complètement.
Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu aussi comment, parce que lorsqu'on cherche des informations sur Jacky Mélin, si on va sur internet, on découvre qu'il est product manager.
Ah oui, ça fait partie un petit peu de ce qui est à la mode, mais qui va rester. C'est un peu cette nouvelle économie, ces nouveaux métiers qui se créent avec les nouveaux usages, les nouvelles technologies. Donc on invente des nouveaux métiers qu'on anglicise parce que c'est très start-up, c'est très inspiré par des techniques américaines, Google, Facebook, etc.
Ouais.
Mais voilà, c'est en train d'arriver en France. Il y a une grande part du dynamisme
alors,
économique.
Alors, comment tu es passé justement de cette médiation, de cette animation patrimoine avec du jeune public à « je suis maintenant product manager ».
Alors ouais, c'est une longue histoire, mais que je peux raconter de manière très simple. Quand j'étais jeune, je voulais faire archéologue, c'était mon premier métier. Mais à mes 12 ans, mes parents m'ont offert un ordinateur, un PC de maison, la première fois qu'un ordinateur arrivait dans les maisons. Et je me suis mis à coder mes jeux directement. Donc je voulais faire informaticien, j'étais petit. Mais ce n'était pas encore l'époque. Et donc, au niveau de l'orientation, on m'avait déconseillé ça. Donc je suis parti vers l'archéologie, où je n'ai pas du tout trouvé de débouché. Et donc j'ai évolué dans ce métier de la médiation pour plein de structures, essentiellement en Bretagne et beaucoup sur la préhistoire. Et après une vingtaine d'années de médiation dans lesquelles j'avais essayé d'utiliser les nouvelles technologies, mais je voyais bien, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de place, on n'avait pas les lieux, on n'avait pas les outils, c'était pas encore facile à utiliser. Au bout d'une vingtaine d'années, j'ai fait un bilan de compétences et le résultat était que je me plaisais énormément dans cette filière du patrimoine, de la transmission, et que ma passion pour les nouvelles technologies
pouvait très bien se lier
complètement
à cette passion.
Je pouvais la transformer, donc j'ai mis en place un projet, on va dire, d'évolution professionnelle, de mise à jour, on va dire. Je me suis upgradé et j'ai fait une formation qui a duré 4 mois, très intensive, sur le développement d'applications pour le web, et qui m'a permis d'apprendre toutes les choses qui me manquaient pour pouvoir être aussi à l'aise dans les nouvelles technologies que je l'étais avec la préhistoire, l'archéologie.
Oui, c'est ça. Donc, tu es passé du codage de jeux à l'ancienne à aujourd'hui, je peux faire une application facile.
De A à Z, avec un bout de papier. Et puis, quelques jours plus tard, on a une application qui est accessible en ligne et qui fonctionne et qui est utile.
Et est-ce qu'en parallèle de alors, entre ce travail, je veux dire, le métier médiation, ce upgrade plus informatique ou plus outils numériques, on va dire. Est-ce que tu as une expérience associative aussi qui s'est mise en place ?
J'ai toujours été dans ces mouvements associatifs. Hein. C'est probablement la fibre éducation populaire qui m'y a poussé, parce que j'aime bien être engagé dans ma vie, dans mon entourage, dans mon territoire. Et donc, dès l'université, on avait créé avec les copains de fac, on avait créé cette association Artefac Santé, parce que il y a beaucoup de convivialité. On avait enlevé le thé, mais on le fêtait régulièrement. Et l'idée était de diffuser l'accès à la culture. Donc, dans le cadre de l'université, on avait créé quelques projets, on contribuait aux liens entre les étudiants justement qui voulaient faire de l'archéologie et dans lequel on était un petit peu les parents pauvres à ce moment-là. Donc on allait sur des programmes de prospection, on organisait des conférences, on avait créé un petit réseau.
Ah oui, ça permettait vraiment de créer de réseau pro aussi peut-être pour la suite.
Complètement.
Si vous vouliez,
il y avait vraiment cette logique-là. On avait le lien avec le service régional de l'archéologie, avec les archéologues, les chantiers de fouilles. Il y avait vraiment une belle communauté.
Donc, la formation à la prospection. Aussi,
oui,
des choses comme
complètement,
ça,
ouais, c'est ça. On allait participer à tous ces séminaires de prospection avec Pierre-Louis Boulet-Pierre, Yvan Paillet, Stéphane Yvain, enfin, une sacrée époque. Et puis donc, comme j'arrivais pas, moi, à rentrer dans le cadre de de l'histoire de l'art, c'était assez compliqué, et que j'étais parti en cours par correspondance, je me suis retrouvé à Fougères, et je me suis dit, je vais lancer ma dynamique locale. Donc j'ai créé une antenne locale d'Artefac, et on a pu lancer notre programme de prospection, trouver pas mal de sites archéologiques. À cette époque-là, il y avait l'autoroute des estuaires, et donc on a pu... comment compléter l'exposition qui présentait les résultats de cette autoroute des estuaires, enfin des fouilles qui avaient été faites sur l'autoroute des estuaires, notamment avec la maison du Homé. Donc on a fait une exposition complémentaire, on a développé un programme d'animation avec un module de fouille, enfin plusieurs modules de fouille où les écoles ont pu venir pendant plusieurs mois. On a même reconstitué une mini maison du Homé à l'intérieur des remparts du château fort. Donc c'était très très dynamique, rien ne nous arrêtait, c'était très très créatif. Et vraiment, ça a créé une dynamique locale. Voilà, les habitants du Pays de Fougères ont rejoint.
Et via cette association, tu avais déjà aussi mis en place peut-être un site internet ou en termes de diffusion, comment? Non, vous n'aviez pas de revues?
Non, pas du tout.
En termes d'articles, de production, quoi, de contenu?
Au niveau numérique...
C'était vraiment des animations, quoi.
Oui, c'était ça. Essentiellement des animations, programmes de recherche, des liens avec les gens... le numérique n'était pas encore là, on est en 2000, donc on a les premières adresses mail, enfin on voit la vitesse à laquelle les choses ont évolué. Et donc à l'époque, je me rappelle, les présentations se faisaient encore avec les rétroprojecteurs, avec les transparents, il fallait créer ses propres diapos transparentes, enfin, il y avait plein de choses que l'on faisait à l'ancienne, il y avait vraiment ces transitions en 20 ans, tout a changé. Quoi.
Tout a changé. Ouais. Et alors comment t'en es venu à avoir cette idée de Néotopia, et c'est quoi exactement Néotopia?
Alors au départ, le projet était d'évoluer dans le cadre de mon métier au sein du musée de préhistoire de Carnac et de pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Mais comme les moyens sont limités, que la mission d'accueillir les publics, les écoles au sein du musée, elle est quand même essentielle, on peut pas la diminuer, on est déjà avec très peu de moyens. Le fait que je veuille, moi, intégrer une partie de mon activité vers la construction de services, de produits numériques, c'était pas compatible. Donc, il a fallu que je construise un projet professionnel propre, indépendant. Et donc, Néotopia est arrivé. Alors, j'avais cette idée en tête, mais voilà, je n'avais pas envie de partir pour créer. Je voulais quand même essayer de le proposer...
En interne, quoi.
En interne, ouais. Voilà. Donc, comme on était en plein confinement, musée fermé, voilà, j'ai quand même pu utiliser quelques ressources avec la mise en place de services en ligne. On a pu créer des vidéos de reconstitution de gestes avec Cyril Chaigneux. Donc, voilà, on était vraiment dans cette logique-là, mais c'est un vrai emploi. Il faut vraiment mettre des moyens. Donc voilà, je me suis lancé vers ce projet, j'ai fait ce pari. Et donc Néotopia est né, évidemment, néolithique avec mes appétences sur la préhistoire, et puis Topia comme une utopie, parce qu'effectivement on est en train de créer quelque chose dont on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, donc on y met toute notre énergie, notre bonne humeur pour voilà, que ce soit quelque chose d'utile, de créatif, et qui continue d'être, de remplir les mêmes objectifs de préservation du patrimoine, mais aussi d'accessibilité. Ça fait que quelques mois que Néotopia est lancé officiellement, et donc il y a déjà des projets qui se sont réalisés, dont notamment celui en lien avec l'association Coruc, qui a pour objectif d'expérimenter et diffuser les connaissances sur la navigation au temps de la préhistoire. Et ça, c'est un projet vraiment extraordinaire, parce que par les fleuves, les lieux de navigation, la mer, on a le point commun entre la diffusion de la civilisation mégalithique, les échanges entre les différents peuples européen au néolithique. Donc ça, vraiment un projet super intéressant. Donc d'abord il y a eu le site internet, voilà, présenter le projet, et maintenant on est plutôt sur la création de contenu au fur et à mesure que l'expérience avance. Donc là, il y a quelques jours, j'étais sur un tournage où j'ai pu utiliser ma récente habilitation au pilotage de drone, et donc je peux contribuer. Donc j'ai rejoint une équipe qui est en train de créer un documentaire sur l'expérience Coruc, qui est la première en son genre sur ce thème de la navigation préhistorique. Donc c'est vraiment super intéressant de rentrer dans cette logique aussi scientifique.
Ouais, et puis expérimentale, quoi.
Expérimentale,
c'est ça, ouais, qui teste
complètement.
Moi, je sers de cobaye.
C'est ça qui sert. Alors moi, ça me sert aussi à pouvoir montrer ce qu'on peut créer, parce que la recherche, c'est ça se crée en temps réel. Et effectivement, si on peut documenter, enregistrer, capter ce qui est en train de se passer, c'est là où en fait les nouvelles technologies vont trouver tout leur intérêt pour la diffusion.
Ouais, réfléchir à quelle forme ça pourrait prendre aussi.
C'est ça, complètement.
Pour que ce soit perçu au mieux auprès du public, quoi.
Complètement.
C'est ça. En termes de diffusion.
Voilà. Et donc, vis-à-vis du public, et la surprise qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est que aussi les techniques qui permettent de modéliser en trois dimensions le travail qui est réalisé avec la technique de la photogrammétrie a trouvé son utilité dans le cadre de l'expérimentation scientifique. Ça permet d'enregistrer les différentes étapes, toutes les heures de travail. Et donc, petit à petit, ces choses vont être intégrées aussi dans la restitution que les archéologues en feront.
Et puis, est-ce que tu as d'autres projets, toi, qui sont déjà aussi bien entamés ?
Oui, alors, c'est des projets un peu au long cours. Hein. Ça prend un petit peu de temps parce que l'appropriation des nouvelles technologies, il ne faut pas que ça soit parachuté, il faut vraiment que ça réponde à des usages, il faut que ça soit expliqué, il faut que ça soit co-construit, parce qu'une fois que le projet est réalisé, une fois que le produit est réalisé, s'il n'est pas utilisé, c'est qu'on a échoué. donc voilà, c'est vrai que je prends mon temps de réaliser ces projets, d'aller voir les différents acteurs. Donc il y a ce projet donc d'application de parcours mégalithique qui est prêt. Et pour pouvoir être mis en place, maintenant il est plutôt à la recherche de territoires, plutôt à la recherche d'endroits où le service qui est proposé d'accompagner à la fois les personnes sur les parcours où aller, mais aussi de pouvoir avoir des contenus, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'il y a à savoir, en rajoutant un aspect ludique, en ajoutant aussi une dimension d'expérience personnelle pour le navigateur, l'internaute. Voilà, ça c'est des choses, sans territoire, ce projet il n'a pas lieu d'être encore.
Il faut qu'il trouve ça.
Voilà, donc.
Sa place, quoi.
Voilà, moi je suis avec mon bâton de pèlerin, je rencontre différents territoires et ce qui est assez intéressant, c'est que tous les territoires que je rencontre sont maintenant convaincus et savent qu'ils vont aller vers ça. La seule inconnue, c'est quand est-ce que où les budgets ou le temps va pouvoir être libéré. Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est là où je retrouve mon travail de médiateur, c'est que ce sera à chaque fois ce qui sera réalisé, ce qui sera produit, sera vraiment du sur-mesure et correspondra à la fois aux problématiques du site, du lieu, à la fois aux besoins des personnes qui viennent visiter ces endroits. Et on aura à chaque fois des choses qui seront adaptées et le fruit d'un travail collaboratif, de contribution des visiteurs, des utilisateurs. Donc c'est vraiment cette démarche-là que moi je souhaite utiliser dans la fabrication de ces applications. C'est de la co-construction. Et on construit au fur et à mesure que les gens expérimentent, donc comme ça on peut vraiment adapter, améliorer en fonction des retours d'expérience, mais quasiment en instantané. Les personnes peuvent nous dire, on n'a pas trouvé, là le bouton il est mal placé, ou il nous manquait, où était le parking. des choses aussi simples que ça. Et le langage que j'ai appris, qui s'appelle Ruby on Rails, est hyper agile. Hyper résilient, on peut vraiment le construire rapidement, le modifier tout aussi rapidement, et ce qui fait que ce sont des applications qui peuvent être créées, évoluer, grandir sur plusieurs années en fait. On est sur quelque chose en plus d'open source qui est donc toujours alimenté,
donc actualisable régulièrement,
et qui fait le fruit de plein d'innovations chaque année. Il y a toujours des nouvelles innovations qui viennent dedans, donc entre ce que les personnes ont besoin, ce que les responsables de site souhaitent développer comme valorisation, comme accessibilité.
Faire apparaître en termes de contenu, quoi.
Voilà, c'est ça, pour ces projets qui sont en train de voir le jour. Et donc, on peut en parler officiellement donc, d'un projet de plateforme qui rassemblerait l'essentiel des informations sur l'actualité de la préhistoire en Bretagne, où sont les sites, quelles sont les animations qui sont proposées, pour que parmi la multitude des acteurs et le grand dynamisme qu'il y a sur notre territoire, que les, les visiteurs, les touristes, les habitants de Bretagne puissent trouver et savoir où sont les choses,
où ça se passe.
Ouais. Et que bah, c'est pas parce qu'on est allé voir les alignements de Carnac qu'on a tout vu. Au contraire, c'est que c'est là que...
C'est la porte, ça, c'est une des 15 000 portes.
C'est ça, c'est une des 15 000 portes, c'est la plus connue. Mais après, bah, où est-ce qu'on peut aller déplacer un menhir? Bon, voilà, ça sera référencé, on pourra savoir où, quand, à quel moment. Et l'idée, c'est pas de prendre la place des acteurs qui sont déjà en train de le faire. L'objectif, c'est juste de relayer l'information qui, vers les sites internet des structures, vers leur actualité. Et donc là, je suis en train de travailler sur cette co-construction, de quel service on propose, comment on le construit. Et l'enjeu principal, c'est effectivement rentrer dans une, on va dire, numérisation des pratiques de visite des sites archéologiques,
d'accueil, d'événements, de programmation des uns et des autres. Ouais. Ou voire même juste de faire connaître, parce que certains ont juste des sites qui sont, enfin je pense au circuit de Crazy Archéo par exemple,
ouais.
Juste des sites visitables mais qui sortent juste de terre, on va dire, voilà. Ou qui viennent juste d'être offerts au public. Donc c'est l'occasion aussi
de les mettre en avant,
de les faire apparaître quelque part. Quoi.
Complètement, et puis ça permettra d'avoir la grande multitude d'offres, ça permettra aussi de valoriser la diversité, et donc grâce aux bases de données, à la data, la manière dont on construit les informations, après ça permet de construire des modules de recherche, où on va dire, bah, je suis disponible de telle date à telle date, mon gîte il est à tel endroit, on est plutôt une famille, j'appuie sur entrée, je vais avoir les propositions qui vont être faites en fonction de ces critères de recherche, donc on est vraiment dans une expérience qui existe déjà pour les offices de tourisme,
mais
en termes d'hébergement,
de proposition, complètement aux alentours. Quoi.
Et là, on va se spécialiser, on sera spécialisé sur le patrimoine mégalithique et tout ce qu'il y a autour, derrière, la recherche archéologique, les ateliers des gestes de la vie quotidienne, les musées,
toutes les structures référentes. Voilà. Quoi. Et alors, pour toi, parmi tout ça et toute cette expérience, ce serait quoi, en fait, la médiation en archéologie?
Alors,
en vrai.
Maintenant que je suis passé de l'autre côté, d'une certaine manière, ça me demande, moi, de redéfinir ce qu'était la médiation. Pour moi, tant que j'étais en contact avec le public, là, maintenant que je suis moins en contact, en tout cas, je suis en contact par des médias, ou le médium numérique, je pense que ce qui fait le point commun, c'est à la fois la rencontre et l'expérience, les conditions dans lesquelles on fait cette rencontre. C'est vraiment le point commun entre ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années et ce que là maintenant je fais, c'est vraiment créer les conditions favorables à une rencontre qui va marquer les personnes, qui va un peu les engager personnellement, où l'histoire, en fait, ou la préhistoire va devenir leur propre histoire. Où il y a un engagement un peu humain, un peu affectif, où... C'est ce que j'avais repéré, moi, quand je faisais des visites guidées. La meilleure manière de protéger le patrimoine, c'est que les gens se l'approprient et un attachement personnel, des souvenirs créés autour d'objets, de lieux, de menhirs, de choses comme ça. Donc voilà, la médiation, pour moi, c'est ça, c'est une rencontre, une expérience.
Une expérience. Et alors, justement, en parlant d'expérience, comment tu vois... 2022, après toutes ces péripéties d'épidémies que nous avons traversées, et les années à venir pour ce qui est de la médiation, puis de Néotopia, quoi, comment tu vois ça?
C'est ma nature, hein, mais je suis très, 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 très optimiste.
Vaut mieux.
Oui, c'est ça. De toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que sinon, on arrête.
On ne serait pas là.
Mais oui, c'est ça, on ne serait pas là.
Aujourd'hui. On ne vous dit pas tout, mais on ne serait pas là aujourd'hui.
Ah oui, parce qu'il se passe des choses aussi, en dehors des podcasts, de la vraie vie, des aventures, des rencontres.
C'est ça, des choses comme ça. Donc oui, on ne serait pas là.
Mais voilà, je suis optimiste, et alors, pour plein de raisons. Donc la première, celle qui nous parle aujourd'hui, c'est que voilà, on commence à peine à voir le bout du tunnel, on est encore dedans, mais on espère voir cette lumière au bout du tunnel. Les lieux de culture, les musées réouvrent et ils sont vraiment très heureux de pouvoir réaccueillir du public.
Donc, ça... Je crois que le public est heureux aussi de pouvoir de nouveau fréquenter ces
voilà,
lieux.
Voilà, c'est ça. Mais il est en moins grand nombre qu'avant, une petite frilosité à revenir dans ces lieux de fréquentation. Et ce qui fait que la 2022, je vois vraiment ça comme un moment de rencontre entre toutes ces structures qui proposent justement de découvrir notre histoire, la préhistoire, et le public qui va se retrouver dans des conditions comme des coqs en pâte. Voilà. Très très bien accueilli, il va y avoir un petit peu moins de monde, donc ça veut dire que ça va favoriser les échanges individuels. Donc pour moi, c'est quelque chose, le contexte est assez favorable. En plus, on peut rajouter aussi cette réflexion qu'il y a eu sur de quelle manière on diffuse le patrimoine, de quelle manière on sensibilise au patrimoine. Et il y a plein de structures qui ont inventé des nouvelles formes de diffusion, soit à distance ou en intégrant des ressources numériques. Mais voilà, il y a plein de choses qui se recréent, qui se réinventent, et on est obligé de faire du sur-mesure, ne serait-ce que dans l'accueil en présentiel, parce que on est obligé de vérifier certaines choses dans les lieux publics. Je pense que ça a re-questionné, ça a bousculé toutes les pratiques. Et je pense que ça fait du bien, ça, aussi.
Oui, de manière générale, je pense qu'on est tous heureux que ça reprenne un peu. Et puis, maintenant, je pense qu'on fait avec. Et
c'est
puis,
ça.
On se dit que tout compte fait, la vie continue. Et adaptons-nous.
Adaptons-nous, voilà.
Et en même temps, c'est ce qu'on fait de mieux, je pense, en médiation, en tout cas, d'adapter et de faire en sorte que le public s'y retrouve. Et
c'est le cœur de notre métier. Hein. Donc, il y a vraiment toute cette variété, cette diversité de contenus, d'approches, qui est en train, là, de s'homogénéiser, tout est en train de se coordonner, donc le numérique permet de faire ce qui était difficile de faire à l'échelle physique humaine, et je vois vraiment 2022 comme une espèce de tremplin dans cette direction. Et après, il faut s'imaginer en 2122.
Oui, c'est ça.
On sera plus là, mais...
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jackie, de nous avoir reçus chez Odysseo. Alors, nous, on se retrouve sur Radio Évasion tous les mercredis à 10h. Et puis, sur votre plateforme de podcast préférée, à vous de choisir. Voilà, chaque semaine, nous sommes là. Et je continue avec mon petit sac à dos à parcourir la région Bretagne pour aller voir les informations concernant la médiation en archéologie, la valorisation du patrimoine. Merci.
Merci beaucoup, Céline.
Je ne vous raconterai pas tout, mais sachez que l'enregistrement de cet épisode ne s'est pas passé aussi simplement qu'il y paraît. Heureusement, chez Archéolab, tout comme Jackie, nous sommes optimistes. Pour revenir sur un des sujets abordés rapidement lors de notre discussion, je vous invite à faire vos curieux sur le site de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, qui fête déjà ses 20 ans cette année. Vous y retrouverez le programme des temps forts, comme le colloque au Sénat sur l'archéologie des territoires le 14 octobre. Sinon, vous pouvez aussi vous procurer l'ouvrage collectif, coédité par l'INRAP et Flammarion, sous la direction de Dominique Garcia, La Fabrique de la France. Une lecture du territoire à travers les époques, les villes, les paysages, les échanges et les sociétés. Bonne lecture et bonne écoute des épisodes à venir sur Radio Évasion.